Il est 7h avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le pardon d'Emmanuel Macron à la veuve de Maurice Audin, le jeune mathématicien communiste victime du système institué alors en Algérie par la France. Des mots qui ont résonné de l'autre côté de la Méditerranée, vous l'entendrez, auprès d'anciens combattants également en France.
Et puis dans ce journal également, décryptage de deux plans de l'exécutif pour les déplacements en vélo, 25 mesures annoncées aujourd'hui et puis retour sur le revenu universel d'activité proposé hier par Emmanuel Macron pour lutter contre la pauvreté.
Elle a eu également une polémique aux États-Unis alors que l'ouragan Florence arrive sur la côte est du pays. Donald Trump minimise le bilan de l'ouragan Maria qui a dévasté Porto Rico il y a un an.
Dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, Renaudot, l'auto-édition à l'assaut des prix littéraires. On posera la question à Oriane de Cellini qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris 13.
Emmanuel Macron a franchi un nouveau pas hier dans le travail de mémoire sur la guerre d'Algérie en demandant pardon à la veuve de Maurice Audin, 61 ans après la mort sous la torture de ce militant communiste, jeune mathématicien enlevé en 1957 par des parachutistes français en pleine bataille d'Alger. Maurice Audin, victime du système institué alors en Algérie par la France, ce sont les mots de la déclaration publique qu'Emmanuel Macron a remise en personne à Josette Audin, la veuve du militant anticolonialiste. Un geste salué en Algérie, le reportage de Leïla Berato.
Pour le ministre algérien des anciens combattants, Tayeb Zitouni, l'annonce du président français est la preuve qu'il y aura davantage de reconnaissance des crimes commis pendant la colonisation. Car ici, on connaît les noms de Maurice Audin, Fernand Yveton, Henri Maillot, des militants communistes qui sont morts pour leur combat pour l'indépendance de l'Algérie. Mais il y a aussi ceux qui, toujours vivants, ont pu témoigner de la torture, comme Louisette Irilariz. Pour Hakim Haddad, militant qui travaille pour le rapprochement entre l'Algérie et la France, c'est un geste positif.
Enfin, justice est faite pour Maurice Audin. Il reconnaît ouvertement la pratique de la torture par l'armée française et ses parachutistes, entre autres, pendant la guerre d'indépendance en Algérie. C'est bien pour les deux pays. C'est dire des vérités qui étaient enfouies. La reconnaissance ouvre aussi la possibilité de continuer à demander la vérité et la justice sur d'autres disparus, qu'ils soient français ou qu'ils soient algériens.
L'ouverture des archives devrait permettre aussi à des centaines de familles d'avoir la confirmation du décès de leurs proches disparus pendant la bataille d'Alger.
Et de son côté, le cofondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui avait réfuté dans le passé des accusations de torture pendant la guerre d'Algérie, Jean-Marie Le Pen a estimé hier que le rôle du chef de l'État n'était pas, je cite, d'aller rechercher des responsabilités criminelles dans une opération extrêmement complexe comme l'a été la guerre d'Algérie. La déclaration hier sur la mort de Maurice Audin précise au contraire qu'il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux que la guerre a meurtri, dont elle a bouleversé les destins, tant en Algérie qu'en France. Il restera sans doute de l'irréparable en chacun, peut-on encore lire, mais une reconnaissance doit pouvoir symboliquement délester ceux qui ploient encore sous le poids de ce passé. Et c'est ce que ressent justement l'ancien sergent Alain Desjardins, 83 ans, aujourd'hui, témoignage recueilli par Jade Péchira.
62 ans après, Alain Desjardins se souvient parfaitement du jour où il débarque à Oran, le 26 juin 56. Il a alors 21 ans, c'est là qu'il découvre la guerre d'Algérie.
On nous invite à avoir comme pratique à l'égard des femmes et des hommes, et de la jeunesse algérienne, tuer les hommes, coincer des femmes dans des mechtas, leur maison d'habitation, on appelait ça les mechtas, les violer et les tuer après.
Avec quelques rares résistants, Alain refuse les ordres.
Sachant qu'on risquait, en opération, de prendre une balle derrière et non pas devant, par des unités françaises.
Un souvenir le hante notamment.
On est venu me chercher pour exécuter un chef Felaga qui avait été torturé tout une nuit, il était encore vivant, si on peut appeler ça. Je vois encore ce sable, je l'ai devant moi. Et donc, j'ai refusé.
Malgré les horreurs qu'il a vues, Alain ne jette pas la pierre à ses camarades.
Ce sont des appelés qui ont été impliqués là-dedans, à leur détriment.
Alain Desjardins vit aujourd'hui dans le Larzac, loin de la folie des hommes.
Avec toujours au cœur, toujours au fond de moi, ce que j'ai vécu en Algérie, qui est le centre de ma vie.
La reconnaissance d'Emmanuel Macron, un début selon lui.
Il a fait un pas, faut partir de ça.
À 83 ans, l'ancien soldat malgré lui a une dernière revendication, la reconnaissance d'un crime d'État contre tout le peuple algérien.
La reconnaissance de la mort sous la torture de Maurice Audin, victime du système institué alors en Algérie par la France, c'est une victoire historique de la vérité et de la justice, estime Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Le PC qui célèbre la fête de l'humanité ce week-end à la Courneuve, en région parisienne. Inauguration d'une place cet après-midi, la place Maurice Audin, pour rappeler l'engagement du jeune militant communiste anticolonialiste. La fête de l'UMA, boycottée par ailleurs par la France insoumise, tension décryptée dans le journal de 7h30.
En attendant, il est 7h05 sur France Culture et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Arrêtons-nous à présent sur un plan réclamé à corps et à cri depuis des mois par 200 parlementaires et des associations d'usagers.
Pour sortir du tout voiture, une impasse, comme l'écrivait, vous le disiez Guillaume, plus de 200 parlementaires dans une tribune en avril. Il faut encourager les déplacements à vélo. 3% seulement aujourd'hui de nos déplacements au total. L'exécutif veut passer à 9% dans les prochaines années. Et le plan vélo, qui devait être dévoilé au printemps, sera finalement présenté cet après-midi à Angers par le Premier ministre Édouard Philippe en personne. Les grandes lignes, déjà avec vous Sandy Dauphin.
Les entreprises pourront dédommager les salariés qui viennent à vélo. Un forfait mobilité durable, montant maximum de 400 euros par an. Ce dispositif, exempté de cotisations sociales, remplacera l'indemnité kilométrique vélo. Il ne sera pas obligatoire, comme le réclamaient les associations d'usagers. Mais pour donner l'exemple, l'État va mettre en place un forfait vélo, 200 euros dans la fonction publique. Autre mesure, la création d'un fonds vélo alimenté par l'État, 350 millions sur 7 temps, beaucoup moins que les 200 millions demandés par les associations. Le but est d'aider les collectivités locales à financer des pistes cyclables et des aménagements, comme des ponts ou des tunnels réservés aux bicyclettes qui permettent de contourner les rocades ou les autoroutes. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos trajets quotidiens font moins de 5 km et pourtant seuls 2 à 3% des déplacements s'effectue à vélo.
Focus environnemental aujourd'hui donc avec le vélo. L'exécutif qui a souhaité prendre un virage social hier avec le plan pauvreté détaillé par Emmanuel Macron et la surprise du chef pour le délégué général d'Emmaüs France, c'est cette nouveauté, le revenu universel d'activité en 2020 qui fusionnerait plusieurs aides sociales. Le nom de ce dispositif rappelle forcément une proposition de Benoît Hamon au Parti Socialiste pour la dernière présidentielle. Il plaidait, lui, pour un revenu universel d'existence. Mais la philosophie du retour vers l'emploi défendu aujourd'hui par Emmanuel Macron est bien différente, Fabien Cazot.
Un revenu universel d'activité qui fusionnerait les APL, la prime d'activité et le RSA en échange d'un contrat d'accompagnement signé avec l'État. C'est toute la différence avec l'idée d'un revenu universel de base versé à tous sans contrepartie. 19 départements se disaient prêts ces derniers mois à expérimenter ce dispositif. La finalité reste la même, simplifier le versement des aides sociales. Alors chiche, répond le président socialiste de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, à Emmanuel Macron.
Nous qui étions prêts à expérimenter le revenu de base, nous sommes prêts à travailler dans le cadre d'un revenu universel d'existence. Il y a des ponts, notamment sur la question, par exemple, de l'intégration de l'allocation logement. Il peut y en avoir d'autres parce que l'objectif du revenu de base, c'est aussi, évidemment, de passer par-delà le seuil de pauvreté. Toutes ces questions-là, nous allons rapidement les discuter entre nous, les 19 départements candidats à l'expérimentation, et ensuite voir si, collectivement, nous faisons une proposition au gouvernement dans le cadre qui est maintenant celui de cette stratégie pauvreté.
La question du montant de ce revenu universel d'activité reste encore une inconnue. Les associations redoutent qu'une fusion des prestations sociales n'entraîne une baisse de leur montant global. Le gouvernement assure pour sa part qu'il n'a aucune intention cachée de réduire les aides.
Et lui crée un fonds de 2 milliards de dollars pour contribuer à l'éducation des plus défavorisés et au logement des familles sans abri. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, l'homme le plus riche du monde avec une fortune personnelle estimée à plus de 160 milliards de dollars, multiplie les annonces caritatives alors que son entreprise est régulièrement attaquée pour sa gestion salariale ou pour son art consommé de l'optimisation fiscale. Jeff Bezos veut aujourd'hui emboîter le pas des Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Toujours aux États-Unis, alors que l'ouragan Florence atteint en ce moment la côte est du pays, privant près de 90 000 foyers d'électricité en Caroline du Nord. Donald Trump, lui, s'illustre sur Twitter. Le président américain a contesté hier le bilan officiel de 3 000 morts à Porto Rico suite à l'ouragan Maria. C'était il y a presque un an, Loïc Glory.
Un sens du timing absolument désastreux. Donald Trump n'aurait pas pu écrire absurdité pareille à un pire moment. Russell Honoré avait coordonné la réponse militaire après l'ouragan Katrina.
Si j'étais son patron ou assis à côté de lui en tant que chef de cabinet, je lui mettrais un bon coup de pied et je lui dirais « Concentre-toi plutôt sur cette foutue tempête qui arrive ».
En revenant sur cet épisode douloureux, le président se tire par ailleurs une balle dans le pied en rappelant la gestion désastreuse. Le député Luis Gutiérrez est originaire de Porto Rico. Il ne cachait pas son amertume à l'approche, cette fois de l'ouragan Florence.
Il possède un golf en Caroline du Nord et des vignes en Virginie. Donc peut-être que les Américains qui y vivent recevront plus d'attention de la part du président que mes chers compatriotes portoricains.
Politiquement, l'affaire pourrait donc être lourde. Les démocrates ont rapidement réagi. Beaucoup de républicains également, jusqu'au vice-président Paul Ryan, visiblement embarrassé.
Être une victime ne vous rend pas mauvais. Je ne conteste pas ces chiffres. J'étais à Porto Rico après l'ouragan. L'île était dévastée. C'était une horrible tempête.
Et à 2 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump a peut-être encore fait perdre des voix à son camp.
Loïc Loury à New York pour France Culture. New York où Cynthia Nixon, l'actrice de la série Sex and the City, n'a pas réussi hier à détrôner le puissant gouverneur Andrew Cuomo, vainqueur sans surprise de la primaire démocrate dans cet état de 20 millions d'habitants. Direction l'Italie à présent, où la ville de Gênes commémore aujourd'hui l'écroulement du pont Morandi qui a coûté la vie à 43 personnes il y a un mois tout juste. Une enquête a été ouverte visant notamment la société concessionnaire de l'autoroute Autostrade Canto 500 habitants qui ont dû quitter leur maison le 14 août dernier. Ils réclament encore des réparations, Mathilde Amberti.
Avant le drame, ils se croisaient le matin au café, le soir en rentrant du travail. Des voisins ordinaires d'un immeuble modeste coincé sous le pont Morandi. Depuis que le viaduc s'est écroulé, c'est sous des tentes de la Croix-Rouge que les rescapés, un peu plus de 500, se retrouvent.
La priorité pour nous, c'est de récupérer les biens qu'on a laissés derrière nous. Le cadeau que m'avait fait mon papa, les dessins de nos enfants quand ils étaient petits, des choses qui n'ont pas de prix pour nous.
La commune devrait attribuer à Giuseppe et sa femme un nouveau logement. Leur immeuble est voué à la destruction. Il se trouve juste en dessous du pont, amputé des 200 mètres de béton qui se sont écroulés le 14 août dernier.
La terre a tremblé, les vitres aussi. Ceux qui y habitaient à l'étage ont vu en direct les voitures et les camions qui se sont écrasés au sol.
Les anciens voisins se sont organisés en comité pour obtenir des dédommagements. Giusy, 30 ans de vie sous le pont.
On s'est sacrifié pour acheter notre maison. On n'est jamais parti en vacances. Alors il s'agit de ne pas nous oublier. On n'y est pour rien là-dedans. C'était la chronique d'un drame annoncé. Ils doivent payer maintenant.
À 11h36, comme dans toute la ville de Gênes, les sirènes retentiront dans le quartier de la Certosa, celui des rescapés du pont Morandi.
Mathilde Imberti à Gênes pour France Culture. Le temps de ce vendredi 14 septembre, marqué par l'alerte désormais orange pour fortes pluies et orages en Guadeloupe et en Martinique, alors que la tempête tropicale Isaac continue de s'éloigner dans les Caraïbes. Réouverture des services administratifs en Guadeloupe aujourd'hui, annonce la région. Reprise également du ramassage scolaire et des vols à l'aéroport Paul Caraïbes. Dans l'Hexagone à présent, au fil des heures, les nuages vont laisser la place à de belles éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera entre 17 et 24 degrés au nord de la Loire, 23 à 30 degrés au sud, Guillaume Herner.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.